Amy fut accueillie au service des lunatiques par une infirmière âgée, la nurse Wilcott, dont l'expression revêche semblait avoir été prélevée sur le visage d'une nonne confite en macération. D'ailleurs, les lieux, avec leurs crypes, leurs colonnes, leurs hautes fenêtres aux vitres barbouillées de bleu, évoquaient davantage un couvent qu'un service de neurologie. Libby s'isola avec la nurse pour lui exposer, avec force chuchotement, le cas d'Amy. Cette malheureuse dont le jeune amant s'était désintégré dans le ciel d'Angleterre, cette pauvre enfant enceinte d'un mort dont elle ignorait l'identité, etc., etc. Pourvu qu'elle n'exagère pas trop, songea l'intéressée en s'asseyant sur le lit qu'on lui avait attribué. 10 minutes plus tard, elle faisait connaissance avec sa voisine de table de chevet. Une femme maigre et chevaline, aux yeux d'un bleu délavé. « Je suis Maggie Brencastle », déclara celle-ci en rectifiant son chignon d'un geste nerveux. « J'étais institutrice avant la saison des orages. » Amy haussa un sourcil. Maggie Brencastle portait, attachée entre les omoplates, une tige de fer haute d'1,50 m. Une grosse ceinture dont la boucle lui meurtrissait le sternum maintenait cette hallebarde en place, l'empêchant de tomber. « Oh !» fit l'ancienne maîtresse d'école en surprenant le regard éberlué de l'amnésique. « C'est un paratonnerre. Je ne m'en sépare jamais. Cela m'a sauvé la vie lorsque la foudre s'est abattue sur ma maison. Vous devriez en porter un. » Cette année, la saison des orages est particulièrement meurtrière. Nurse Wilcott interrompit la conversation sous le prétexte d'emmener Amy chercher ses draps. Lorsqu'elles eurent quitté la salle commune, elle déclara « Si vous voulez éviter les querelles, je vous conseille de ne point vous étonner des bizarreries de votre voisine de lit. Cette pauvre Maggie a perdu ses 3 enfants dans le bombardement de son cottage. Depuis, elle fait comme si la guerre n'existait pas. Elle vous expliquera que la déflagration des bombes qui pleuvent sur Londres n'est que le roulement du tonnerre, la lueur des incendies celle de la foudre, et qu'il est facile de se protéger de ces calamités en conservant un paratonnerre à portée de main. Dans son esprit, nous traversons la saison des orages, un point c'est tout. Ne la contrariez pas ou elle vous arrachera les yeux. C'est une malheureuse. Ne touchez jamais à la tige de fer qu'elle promène partout, elle serait capable de vous fendre le crâne. Ce n'est pas compliqué, il suffit de jouer le jeu. Si vous mettez la pagaille dans mon service, je serai forcée de vous isoler, ce qui signifie camisole de force et chambre capitonnée. Libby s'est portée garante pour vous, mais Libby est plus stupide qu'une oie. Aussi ne vous faites pas d'illusions, je vous aurai à l'œil. » Cet avertissement laissa Amy de glace. « Curieux, songea-t-elle, on dirait que je ne suis guère impressionnable. C'est comme si j'avais connu des situations autrement angoissantes. Peut-être, en tant que ballerine, suis-je habituée au trac ?» Pendant 2 jours, Amy joua les pensionnaires dociles. Dès que meuglait la sirène annonçant l'imminence d'un bombardement, la nurse Wilcott procédait à une distribution générale de laudanum. C'était pour elle la seule façon de juguler la nervosité des lunatiques dont l'angoisse communicative courait de lit en lit tel le crépitement d'un court-circuit le long d'un fil électrique. Amy faisait semblant de boire, puis de sombrer dans l'apathie. Mais certaines patientes, telles Maggie Brencastle, se mettaient à hurler comme des louves un soir de lune pleine, installant dans la salle un climat de jardin zoologique. « L'orage » criait-elle, « l'orage ! Il approche !» Et elle se cramponnait à la tige de fer coincée dans sa ceinture. Le roulement des explosions traversait les murs pour s'épanouir sous la voûte, faisant trembler la verrerie médicale alignée sur les étagères. Il n'était pas rare que des morceaux de plâtre se détachent du plafond et s'abattent sur les lits. « Les orages !» répétait mécaniquement Maggie. « Les orages d'été !» Et ses phalanges blanchissaient sur la barre d'acier. Agenouillée dans son bureau, la nurse Wilcott priait, les yeux clos, tandis que la poussière de plâtre recouvrait son visage d'un maquillage blafard. « Ce n'est rien, se répétait Amy, j'ai connu pire. Il suffit de serrer les dents, ça va passer. » Elle ne savait d'où lui venait cette conviction. En quoi sa formation de ballerine l'avait-elle préparée à affronter un tel chaos? Elle n'en avait aucune idée. La vie au sein des corps de ballet était-elle si âpre? Quand les sirènes se mettaient à meugler, la nurse Wilcott ne les faisait jamais descendre aux abris, contrairement à ce qui se passait dans les autres services. Comment les surveillerais-je? S'était-elle plainte un jour à l'un des médecins. Je suis toute seule pour diriger cette ménagerie. C'est un vrai dépotoir. On m'expédie tous les cinglés de l'hôpital et bonsoir. Que la mère Wilcott se débrouille comme elle pourra. C'est un peu facile, non? Une nuit, l'un de ces détraqués m'égorgera pendant mon sommeil. Mais vous vous en fichez, n'est-ce pas? S'ils ne tenaient qu'à moi, on les expédierait tous à Bedlam et l'on n'en parlerait plus. À la fin de la première semaine d'observation, Wilcott estima que sa nouvelle pensionnaire avait un comportement à peu près normal et lui demanda de la seconder dans les travaux courants. Encore une fois, Amy se vit promue fille de salle. Elle ne s'en plaignit pas, car ce statut l'autorisait à suivre la nurse dans ses déplacements et donc à sortir du quartier des femmes. « Ne restez jamais seule dans la section des hommes, » lui conseilla l'infirmière. « Ils ont beau avoir perdu la tête, avoir oublié leur nom, leur famille, leur métier, ils se souviennent toujours d'une chose, qu'ils ont un sexe entre les jambes. Ça, ils se le rappellent trop bien. Pas la peine de leur expliquer à quoi ça sert. » Les âges des patients s'échelonnaient de 18 à 70 ans. La plupart étaient des civils victimes des bombardements. Certains souffraient de blessures à la tête, d'autres avaient été traumatisés par les bombardements. Beaucoup paraissaient frappés d'une stupeur insurmontable. Ils restaient tout le jour prostrés sur leur lit ou ratatinés sur une chaise, les yeux dans le vague. « Celui-ci était pilote, » expliqua la nurse Wilcott en désignant un jeune homme dont le crâne rasé s'ornait d'une cicatrice cruciforme. Lorsque son appareil a été abattu, il a sauté en parachute, mais le vent l'a déporté au-dessus de Londres et il a heurté de plein fouet la flèche d'une église. Il devrait normalement se trouver dans un hôpital militaire, mais son unité semble l'avoir oublié. À moins que sa famille ne soit intervenue pour qu'on le garde éloigné du théâtre des opérations. C'est le fils d'un notable fort influent à ce qu'il paraît. Ici, nous ne le connaissons que sous son prénom, Huck. Depuis qu'on l'a trépané, il est doux comme un mouton. Vous pourrez vous occuper de lui. Essayez de le distraire, il a tendance à sombrer dans la neurasthénie. Un joli minois comme le vôtre devrait l'égayer. Amy examina le blessé. Vêtu d'un pyjama trop grand, il avait l'air d'un petit garçon qui aurait enfilé les vêtements de son père. Le visage était agréable, point trop chevalin, comme c'était là souvent le cas chez la plupart des Anglais et... Tiens, comme c'est curieux, réalisa soudain la jeune femme. Je viens de penser les Anglais comme si j'étais d'une autre nationalité. L'espace d'une seconde, j'ai eu l'impression de ne pas être des leurs. Elle s'immobilisa, troublée. Pourtant, elle parlait parfaitement l'anglais. Et jamais ce qu'elle côtoyait depuis son réveil n'avait émis le moindre doute quant à ses origines. « Peut-être suis-je irlandaise, » se dit-elle pour se rassurer. « Dans ce cas, il serait normal que je dise les Anglais en parlant des Londoniens. » Elle s'accrocha à ce raisonnement avec une obstination qui ne tarda pas à lui paraître suspecte. Pourquoi tenait-elle à ce point à être anglaise? « On dirait que j'ai peur, » constata-t-elle. Mais de quoi? Elle chassa ce souci d'un mouvement de tête, faisant onduler la masse flamboyante de sa chevelure au reflet de feu. Huck leva le nez. S'il n'avait pas eu le crâne rasé, il aurait été presque beau. Elle s'aperçut qu'il jouait avec un modèle réduit d'avion, ou plutôt qu'il s'appliquait à construire un minuscule Spitfire à partir des débris de balsa récupérés sur un cajou à légumes. Il procédait avec des gestes d'une extrême précision, digne d'un horloger. Les lunatiques n'étant pas autorisés à posséder un canif, il utilisait un éclat de boîte de sardines pour découper ses pièces. « C'est à cause du voile noir, » expliqua-t-il tout de suite à Amy. « Je suis tombé à cause du voile noir. » De quoi s'agit-il, s'enquit la jeune femme s'attendant à une affabulation des plus fantaisistes. Ça se produit quand l'avion est en piqué et qu'on essaie de le redresser, dit doucement Huck. Le sang se retire alors du cerveau et on devient aveugle. Le voile noir est l'ennemi numéro un du pilote. Lorsqu'il vous tombe dessus, on est complètement vulnérable. Un Zangbosch peut sortir d'un nuage et vous mitrailler, un obstacle surgir du brouillard, on n'en sait rien parce que vos yeux sont remplis de ténèbres. Vous imaginez ça? Un aveugle aux commandes d'une machine qui vole à 500 km/h. Il fit une pause, tritura son modèle réduit, puis souffla d'une voix de garçonnet pris en faute. Je suis un bon pilote, mais on ne peut rien contre le voile noir. C'est une malédiction. Depuis que j'étais abattu, j'en souffre tout le temps. Dès que je marche un peu plus vite que d'habitude, il me tombe dessus. Ici, au détour des couloirs. Je deviens brusquement aveugle et je me cogne au mur. Vous êtes là pour m'aider, c'est ça? Vous me guiderez quand le voile noir m'obscurcira la vue? Bien sûr, assura Amy. Je vous prendrai par le bras et je vous mènerai jusqu'à la piste d'atterrissage la plus proche. Ça ira? Ouais, s'extasia Huck. Vous êtes une chouette fille, vous.
Deux fois par semaine, un curieux personnage leur rendait visite. Une sorte de répétiteur qui tenait tout à la fois du pion et du pasteur. Vêtu de hardes, un parapluie coincé sous le bras, il ne se séparait jamais de son chapeau melon verdi par les ans. « Je suis là pour vous guider dans le brouillard !» déclamait-il de cette voix qu'adoptent les orateurs de jardin public. « Ce brouillard qui emplit vos pauvres têtes. Considérez-moi comme un phare, une lueur qui palpite dans les ténèbres. Suivez ce lumignon et il vous mènera à bon port. Je me nomme Albrecht Vasparnus. Je vais vous expliquer le monde. » En fait, la tâche d'Albrecht consistait à préparer leur retour à la vie civile. Il leur parlait de la guerre, leur exposait les raisons du conflit, multipliait les conseils de survie. « Il est probable qu'on vous déménagera à l'arrière, dans les Home Counties, » disait-il. « Les bombardements prennent pour cible les villes industrielles, mais dans les campagnes, la vie est paisible, et on y a le plus grand mal à imaginer que l'Angleterre est en guerre. » À ces mots, Maggie Brancastle haussait les épaules. « Je n'ai jamais rien entendu de plus stupide, » s'exclamait-elle. Il n'y a pas de guerre, seulement des orages. Si l'on évite de s'abriter sous un arbre et si l'on dispose d'un bon paratonnerre, on ne risque rien. Je pense que vous serez évacué vers une ferme hôpital, continua Albrecht sans tenir compte de l'interruption. La vie au champ vous fera le plus grand bien et vous pourrez vous rendre utile. Vous comprenez que tout le monde doit participer à l'effort de guerre. Personne ne peut demeurer en retrait. Une contribution vous sera demandée. Je vous supplie d'y souscrire sans rejamber. » Entre deux leçons de morale, Amy accompagnait Huck au long des couloirs. Le pilote avançait à petits pas. Les tournants étaient sa hantise. Dès qu'il devait négocier un virage, il prétendait que le voile noir l'aveuglait et il se cramponnait à la jeune femme, lui rentrant les ongles dans la chair du bras. Albrecht revint. Cette fois, il apportait de curieux livrets remplis de silhouettes d'oiseaux d'un noir sinistre. En se penchant sur le fascicule, Amy comprit son erreur. Il s'agissait d'avions allemands vus d'en dessous et de profil. Des avions noirs barbouillés de ténèbres, comme si au fil des raids nocturnes, la nuit avait fini par déteindre sur leur fuselage. « Vous allez apprendre à les reconnaître au premier coup d'œil, » expliqua Albrecht. « À les différencier des appareils britanniques. » Cela doit devenir chez vous une seconde nature, un réflexe. Ensuite, on vous installera dans le clocher de l'hôpital et vous scruterez le ciel au moyen de puissantes jumelles. Votre rôle sera de donner l'alarme si vous repérez un appareil ennemi. La Home Guard manque de bons guetteurs. On a pensé que vous pourriez ainsi contribuer à la sauvegarde du Saint Jobs, tout diminué que vous êtes. Au cours des jours qui viennent, nous allons apprendre à identifier les silhouettes. Je vous attribuerai des notes. Ceux qui réussiront l'examen deviendront des guetteurs. » Au début, la chose parut amusante. Albrecht exhibait à bout de bras des cartons sur lesquels se trouvaient peintes les sombres figures des appareils ennemis. Bizarrement, sans même avoir pris la peine d'étudier le fascicule, Amy s'aperçut qu'elle était capable de mettre un nom sur chaque dessin en l'espace d'une fraction de seconde. Heinke 111, Junkers 87, Dornier 17, Messerschmitt 109 ou 110. Elle les reconnaissait tous. Leurs noms explosaient dans son esprit tels de minuscules bulles de savon. Sans les avoir jamais vus, elle savait tous deux. Elle connaissait la moindre ligne de leur fuselage, la découpe du nez et des hélices, l'inclinaison des ailes. Comment une ballerine peut-elle savoir ce genre de choses? Se demanda-t-elle avec une pointe d'inquiétude. J'ai oublié tous mes pas de danse, mais je me rappelle jusqu'au plus petit détail de ces stupides avions. Troublée, elle finit de se tromper, car elle avait peur de passer pour une bonne élève. Une trop bonne élève. Allons, se dit-elle. J'ai sûrement appris ces trucs avec mon fiancé. S'il était pilote, il devait passer son temps à me bassiner avec ses fichues zingues. Les garçons sont dingues de ce genre de trucs. Probable qu'il ne savait pas parler d'autre chose. Oui, ce devait être ça. Elle ne voyait aucune autre explication. Les filles de son âge ne s'intéressaient pas aux avions. Aux aviateurs, oui, mais pas aux avions. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, Hugues s'en tira avec une note moyenne. Mais il est vrai qu'il avait passé le test les yeux à moitié fermés, prétendant que la seule vue des appareils lui donnait le voile noir. Maggie Brencastle, elle, s'entêta à répéter qu'il ne s'agissait pas d'avions, mais d'oiseaux migrateurs fuyant les orages d'été. S'ils étaient noirs, c'est parce que la foudre, en les frôlant, avait carbonisé leurs plumes. « Des cigognes, marmonnait-elle, de grandes cigognes qui empestent le duvet crié. » « Bien, conclut Albrecht. Amy a obtenu la meilleure note. Hugues et Maggie occupent les deuxième et troisième places. Les autres... » Il se tut. Les autres s'étaient cachés la tête sous un drap ou avaient fixé les dessins sans les voir, ce qui avait porté un coup fatal à leur moyenne. « Je veux bien monter sur le toit pour identifier les oiseaux, » fit Maggie du bout des lèvres. « Quoique je ne comprenne toujours pas, pourquoi on a affublé ces cigognes de noms si absurdes ?» Ce fut un soulagement pour Amy de voir enfin apparaître la figure joufflue de Libby dans l'entrebâillement d'une porte. « Désolée, s'excusa la grosse fille. Pas pu venir plus tôt, trop de boulot. Les bombardements ont fait des centaines de blessés. On ne sait plus où les mettre. C'est bien d'avoir réussi le test des Watchers. » Si tu donnes satisfaction, tu obtiendras une carte d'identité temporaire qui te permettra de sortir d'ici. Ne fais pas de conneries, surtout. Je me suis portée garante. Une fois dehors, je serai ta tutrice. Personne ne m'a réclamé, sans qui Amy, en réalisant qu'elle parlait d'elle-même comme d'un parapluie trouvé dans le métro. Non, marmonna Libby en baissant les yeux. C'est bizarre. On a encore arraché ta photo sur le tableau d'affichage. C'est la deuxième fois que ça se produit. Ça doit être un type à qui tu as tapé dans l'œil. Amy feignit de prendre la chose à la légère, mais elle ne put ignorer le pincement qui lui fria l'estomac. Qui s'acharnait ainsi à la maintenir dans l'anonymat? Quelqu'un avait-il intérêt à ce qu'elle ne ressorte jamais de St. Jobs? Elle n'était pas loin de le croire. Dans le réduit au linge sale, Libby fit du thé, exhiba des barres de Baby Ruth offertes par un Américain et sortit le traditionnel paquet de cigarettes de dessous sa blouse. Amy s'installa. Elle avait appris à apprécier ces moments d'intimité. Il lui semblait alors que la masse de l'hôpital se faisait moins obscure, moins chargée de mystère. Un instinct dont elle s'étonnait encore lui soufflait qu'au sein du dédale des salles et des corridors, quelqu'un conspirait à sa perte. C'était absurde, bien sûr. Qui aurait pu en vouloir à une ballerine amnésique? Pas même fichu de se rappeler trois pas de danse. Lorsqu'elle réussissait à endormir ses craintes, elle se laissait prendre au naïf projet de Libby. Elle essayait d'imaginer sa vie dehors, la chambre partagée, son existence avec cet inconnu qui paraissait résolu à se consacrer à elle avec une dévotion de servante. « C'est bien !» lui souffla encore une fois la voix d'homme au fond de sa tête. « Utilise-la comme on t'a entraîné à le faire. Il faut apprendre à survivre sur le terrain en se servant des autochtones. » Elle fut choquée de se découvrir capable de tenir de tels raisonnements. Qui l'avait ainsi dressée et dans quel but? Le lendemain, la nurse Wilcott les mena par un escalier tortueux au sommet de la tour de guet. La dernière porte poussée, on débouchait sur une plateforme dominant les toits d'ardoise au parfum âcre. Amy retint son souffle tandis que les pigeons surpris s'égayaient, la giflant de la pointe de l'aile. St. George's Infirmary s'étalait autour d'elle dans une multitude de coupoles désuètes, flanquées de statues décapitées par le souffle des explosions. Plus loin, c'était Londres, avec ses ruines, tantôt grises, tantôt noires, parfois fumantes. Amy s'approcha de la barrière ceinturant la plateforme. Les planches grincèrent. Les bombardements avaient creusé des tonsures dans le tissu urbain. Le brouillard fleurait la suie. Des charpentes incendiées montaient un parfum de feu de bois, agréable, incongru. Il faisait froid. La nurse ouvrit la porte de la guérite, plantée au centre du poste de guet. Un petit poêle à paraffine se cachait là, soutenant une bouilloire et un nécessaire à thé. Des cirés de la Navy pendaient à un clou. « Voilà les jumelles, » déclara-t-elle. « Prenez-en soin, c'est du matériel militaire. Si vous les abîmez, on vous accusera de sabotage. » Dans cette boîte se trouve le téléphone intérieur. En cas d'alerte, tournez la manivelle pour établir le contact avec le planton du rez-de-chaussée. C'est lui qui déclenchera l'alerte générale. Elle disait cela du bout des lèvres, comme si en son fort intérieur, elle émettait les plus grandes réserves quant aux capacités d'observation des éléments sélectionnés par Albrecht. Amy n'en fut pas affectée. Elle comprit une fois de plus qu'elle s'estimait différente de ceux qui l'entouraient. Hors du cercle, d'une autre horde. Leur avis n'avait aucune valeur à ses yeux, leurs sentiments non plus. Elle n'était pas des leurs et ne le serait jamais. C'était une conviction obscure, incompréhensible, mais bien ancrée en elle. Avec un haussement d'épaule, Wilcott les abandonna sur la plateforme. Amy s'empara des jumelles. Les lentilles très puissantes avaient été conçues pour les observations à longue distance. Il aurait été vain de les utiliser pour lorgner la fenêtre d'un voisin de l'autre côté de la rue. Elle n'en fut pas surprise, comme si dans une autre vie elle avait déjà manipulé ce type de matériel. Pour se donner une contenance, elle scruta le ciel. Maggie entra dans la guérite et entreprit de faire du thé. Hugues s'assit au bord de la plateforme, les jambes dans le vide pour continuer son travail de modélisme. Tout en travaillant du couteau, il monologuait à la manière d'un gamin s'adressant à un compagnon imaginaire. Amy finit par comprendre qu'il s'adressait au petit avion de Balsa. « Tu vas t'envoler, » lui disait-il. « Tu décriras un cercle, puis tu reviendras ici pour te poser dans ma paume. » Ne va pas trop loin pour une première fois. Tu n'as pas encore assez d'endurance. Soudain, avant que la jeune femme ait eu le temps de l'en empêcher, Hugues se releva et d'un mouvement du bras projeta le modèle réduit dans le vide. Le jouet porté par le vent plana l'espace de 3 secondes avant de piquer du nez et de tomber sur une corniche à 20 mètres de la plateforme d'observation. Aussitôt le visage du garçon se crispa. Ses mains se mirent à trembler tandis qu'un ululement plaintif s'échappait de ses lèvres. « Il ne revient pas, » gémit-il. « Il ne veut pas revenir. » Sentant venir la crise nerveuse, Amy posa la main sur l'épaule du jeune homme. « Calme-toi, » souffla-t-elle. « Je vais aller le chercher. Reste tranquille. Je te le rapporte tout de suite. » Elle ignorait quel démon venait de la pousser à faire cette promesse. L'avion de Balsa se trouvait échoué à l'angle d'un mur, au bout d'une corniche qui faisait le tour du bâtiment et dont la largeur n'excédait pas 15 centimètres. Seul un chat de gouttière aurait pu relever un tel défi, et à condition de ne pas être déséquilibré par le vent. Abandonnant bouilloire et théière, Maggie s'interposa. « Ami, clama-t-elle, vous n'y pensez pas? Vous n'êtes pas un oiseau? 6 étages nous séparent du sol. Si vous tombez... » Mais déjà, la jeune femme avait enjambé la balustrade. Sans hésiter, elle posa le pied sur l'étroit chemin de pierre et commença à se déplacer le dos contre la muraille. Elle n'avait pas peur. Ses pieds, qui avait pourtant tout oublié des pas de danse laborieusement appris, semblait savoir ce qu'elle attendait d'eux. « On dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie », songea-t-elle, cédant à une étrange exaltation. Elle n'avait pas le vertige. Elle se sentait bien, chez elle. Comme si elle avait été chatte de gouttière dans une vie antérieure. Elle trouvait enivrant de se promener à 6 étages au-dessus du sol, avec la certitude de ne courir aucun risque. « Je sais que je ne tomberai pas », constata-t-elle. « C'est comme un instinct. Il me semble que je pourrais faire ça les yeux bandés. » Brusquement, elle eut une illumination. « Mais oui, se dit-elle, je me suis trompée depuis le début. Je n'étais pas une ballerine, j'étais danseuse de corde. » Parvenue au bout de la corniche, elle plia les genoux, tâtonna pour récupérer l'avion et revint sur ses pas. Quand elle regagna la plateforme, elle était en sueur et ses genoux tremblaient. Elle ne comprit pas un traître mot de ce que lui dirent Maggie et Huck. On lui sauta au cou, on l'embrassa. Elle n'y prêta pas attention. « Danseuse de corde, se répétait-elle, ou acrobate. Aurais-je travaillé dans un cirque ?»